C'est curieux.
Cette fois-ci avec un témoignage plus sur la partie, on va dire, consommation, en tout cas, bien de toutes ces productions, activités agricoles, les fruits et légumes en l'occurrence, avec toi Julien, qui est le fondateur du coup de Ma Récolte Bio, qui est donc, comme je le disais, une plateforme e-commerce qui fait des paniers de fruits et légumes, plutôt une majorité de légumes, il me semble, peut-être, enfin tu nous diras un peu tout ça. Et donc tu as voulu nous faire une petite présentation. De l'exploitation à l'activité commerciale, parce que avant d'être un commerçant en ligne, tu as aussi mis la main à la terre en étant maraîcher. Mais je ne vais pas spoiler un peu plus, je te laisse prendre la main sur cette présentation-là.
Merci Selim, merci à Récréascience pour l'invitation. On va commencer du coup à passer à la suivante, comme ça on va faire mon parcours de vie en fait. Alors j'ai un parcours un peu atypique parce qu'en fait à l'origine je suis issu d'une formation scientifique que j'ai fait à la fac ici, donc d'une mesure physique et puis une petite licence dans les télécoms qui finalement j'ai pas continué. J'étais arrivé au bout. Quelques années de sont passées, un à deux ans en fait, où j'ai fait des petits boulots. Et puis l'appel de la terre me plaisait plutôt pas mal. J'avais fait un potager, enfin voilà, comme beaucoup de personnes, et je trouvais ça intéressant. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis lancé dans l'aventure en faisant un BPROA au lycée agricole des Vazés. Donc j'avais encore l'âge de faire un apprentissage, donc je fais ça pendant deux ans. Du coup, c'est bien parce qu'on a la partie technique et la partie pratique et la partie théorique. Et on se rend compte en fait que c'est deux mondes différents. Donc mon apprentissage j'ai fait au jardin de Cocagne. Je me suis installé dans la foulée, donc j'ai fait en 2008 mon installation sur une ferme qui était basée à Saint-Just-le-Martel, donc on était vraiment pas loin de Limoges. Elle faisait à peu près 10 hectares. Moi j'avais un projet plutôt maraîchage, du coup fruits et légumes en polyculture. On avait un hectare et demi de légumes avec 1000 mètres carrés de serre et un demi-hectare de vergers petits fruits. La particularité de la structure, en fait, je m'étais lancé dans un projet libre cueillette, donc les gens venaient eux-mêmes faire leurs emplettes sur le site, avec une partie marché qui était beaucoup moins importante. La particularité, c'est que on était en agriculture biologique. Ça me tenait à cœur, moi, parce que je trouvais ça important pour moi déjà, parce que utiliser tous les produits phyto, c'était pas trop mon truc et mon délire. Et puis après, parce que je trouvais que l'alimentation saine était importante et je pense encore à progresser.
Notre activité a duré 7-8 ans. On a commencé à avoir des difficultés sur 2014-2015 de par le climat qui nous a mis quelques fois dedans avec des gelées tardives, des gelées précoces, de l'excès d'eau. Sur une activité libre-cueillette, c'est plutôt compliqué du coup de gérer toute la récolte et le flux qui est du coup en dents de scie. On a en parallèle à la fin de cette période-là, moi, j'ai commencé à réfléchir à un autre moyen de commercialiser, aussi parce que, au contact des clients, des consommateurs, il y avait des questions, des problématiques qui se présentaient sur. Nous, on avait une serre de tomates. Alors, le succès était là, donc la tomate, elle restait jamais bien rouge bien longtemps, donc on n'avait pas assez de tomates. Donc il y avait une demande, mais il n'y avait pas l'offre. Donc il y avait une certaine frustration. Moi je m'étais pas du tout orienté sur le panier. J'en avais fait pendant deux ans à Cocagne, qui ont un gros volume. Ils font un peu plus de 300 paniers, je crois, par semaine. Donc j'étais assigné à ça. Donc j'en ai fait pendant longtemps. Mais je me suis, dans la réflexion, je me suis dit bon, ok, la libre cueillette, on n'arrive pas à fournir. Il y a de la demande. En bio, moi techniquement aussi, il y avait ce côté technique qui était peut-être pas. J'étais peut-être pas assez bon aussi. Même sûrement d'ailleurs. J'ai l'honnêteté de le dire, sûrement j'étais pas assez bon parce que j'ai eu aussi des ratés sur toutes les périodes de culture.
Du coup, un projet a commencé à naître. Je me suis dit, bon, ok, alors si on fait du panier, les paniers, la production, c'est compliqué. Il y a une grosse partie commerciale, il y a une partie prospection, il y a une partie. Et puis la production, c'est quand même un vrai travail, c'est un travail à plein temps. Il faut vraiment y être engagé, il faut être sur présent. La cueillette aussi m'avait marqué sur le fait que, comme les gens venaient sur place, dans un travail, dans une tâche, on pouvait être souvent interpellé, tiens, mais j'aimerais bien savoir ça, comment on fait. Du coup, on avait une perte aussi d'efficacité.
Oui, et puis, pardon, je me permets de te couper, mais c'était l'idée aussi d'apprendre un nouveau métier, en fait. C'est-à-dire que tu passes d'un métier où tu as été formé avec des études, etc., à même une double casquette, c'est-à-dire faire un nouveau métier qui est de la vente et aussi le métier d'entrepreneur aussi, parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour, tu disais logistique et tout, puis bon, les joies de l'administratif aussi, quand on découvre, c'est toujours spectaculaire.
Oui,
quoi.
Oui, oui, c'est un vrai, c'est un autre monde aussi. Donc tout ça cumulé, en fait, on a petit à petit, j'ai basculé. Avant la fin de l'activité, j'avais commencé à lancer un petit blog pour voir un petit peu si ça prenait ou pas sur du panier. Alors, de mon expérience des jardins de cocaïne, moi, j'avais eu beaucoup de retours sur le fait qu'il y avait une récurrence des produits, on ne peut pas modifier, le rythme était imposé. C'était ce qui revenait assez souvent. Et le blog avait pour vocation, en fait, de créer des paniers personnalisables en restant à l'intérieur, donc qui était plutôt, qui avait une certaine modularité, que ce soit ou sur la compo ou sur le rythme de livraison. Ça, c'était vraiment l'origine du blog.
Sachant qu'on met dans le contexte en 2016.
Oui, donc juste au basculement, en fait. Voilà, fin 2015, je lance le blog. Ouais. En 2015, tout a explosé, la famille, tout. Donc du coup, fin 2015, je lance le blog. Je continue à tenir l'activité agricole. Et en fait, au bout d'un moment, le blog fonctionne. Enfin, il y a une réelle réponse. Et je me dis, l'agricole, je ne peux plus tout faire de front. Donc je décide de faire une cessation d'activité agricole. Et j'arrête l'activité agricole pour vraiment me concentrer sur l'aspect blog et vente par Internet, en fait, tout simplement.
Ouais, puis j'insistais sur l'année 2016 parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous paraît maintenant normal, le e-commerce. En 2016, à l'époque, il y avait soit des petites initiatives qui tentaient en do it yourself et qui se cassaient la figure parce qu'elles ne se rendaient pas compte en fait, du boulot. Et comme tu l'as très bien dit, le fait qu'il faut être à plein de temps dedans pour pouvoir vraiment le réaliser. Et il n'y avait que des mastodontes qui tenaient. Donc c'était quelque part sur le territoire, est-ce que tu avais pu, comme on dit dans le monde de l'entreprise, faire du benchmark ? Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui faisaient ça à cette époque-là dans le territoire ?
Alors, vente de paniers par Internet, non. Voilà. J'étais tout seul. Même la cueillette, hein, j'étais un des premiers. C'est pas dur, mais voilà, c'est important de le signaler. Non, sur vente de paniers sur Internet, j'étais tout seul. Alors, par contre, il y avait des producteurs qui commercialisaient déjà des paniers, qui livraient soit dans des entreprises ou dans des points de retrait.
Mais on s'était beaucoup par téléphone. Enfin, le prisme du numérique, en fait, il n'était pas là, quoi. C'était soit du bouche à oreille, soit du téléphone. Il n'y avait pas encore tout ça.
Exactement.
Quoi.
Il y avait pas. Ils font pas de commandes. Enfin, il y a pas de structure. Même un producteur n'a pas un site internet dédié pour commercialiser ses paniers. Donc nous, notre projet, c'était vraiment faire du panier vendu par internet avec une vraie modularité. Alors, le blog a duré un certain temps, et puis au bout d'un moment, alors j'en ai pas parlé, on va pouvoir passer. On y est déjà, pardon. C'est bon, fait câble, merci. Du coup, le blog a duré un certain temps avant d'arriver à 2017. En fait, moi, j'avais basculé déjà sur un petit site d'e-commerce que j'avais créé moi-même, qui était sous Presta, en fait. Donc, merci. qui était sous PrestaShop, qui m'a permis vraiment de passer à l'étape supérieure, parce que le blog a quand même énormément de limites. C'était une façon de faire des premiers contacts, des paiements PayPal. Bon, voilà, c'était très très archaïque, sachant que sur le numérique, je suis autodidacte, hein, j'y connais, j'apprends sur le tas. Donc le site PrestaShop a permis de tenir jusqu'à début 2017, où on a créé Ma Récolte Bio avec deux associés, et on a encore basculé sur une étape supplémentaire avec la création d'un nouveau site qu'un de mes associés a monté, qui nous a permis vraiment de pouvoir étaler sur Limoges et après d'arriver jusqu'à Brive maintenant au niveau distribution. Voilà, donc ça représente Brive-Limoges à peu près 40 points, 40 points de retrait. De tout ce chemin-là, moi j'avais une expérience de production, j'avais beaucoup de contacts aussi au niveau producteur, donc qui sont maintenant des anciens collègues, mais avec qui j'ai toujours gardé des contacts. Et petit à petit, j'ai maillé aussi au niveau territoire et approvisionnement, que ce soit en légumes ou en fruits. Alors maintenant, on va chercher beaucoup plus loin, mais on est toujours notre objectif, en fait, ça a toujours été d'avoir le circuit le plus court possible dans la distribution. Donc, on est quasiment à flux tendu. On n'a pas de stock et pour atteindre cet objectif-là, c'est forcément d'être soit en direct, soit après, d'avoir une coopérative très près.
Donc physiquement, comment ça se passe ? C'est-à-dire que toi, tu as un local qui réceptionne les produits et tu t'occupes, on va dire, de faire les paniers et l'expédition. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Les coopératives, elles fournissent juste, elles ne sont pas forcément actrices après de la composition des paniers, par exemple ?
Alors, elles ne sont pas actrices, oui et non. C'est-à-dire que petit à petit, au début, ça a été un peu compliqué à mettre en place. Maintenant qu'on a des notions de volume, de quantité, d'organisation, on commence à mettre en place pas des contrats, mais on s'engage à leur prendre une certaine quantité de produits. Je pense notamment à Biocorrèze, là où on attaque cette année, qui est une coopérative toute récente, qui regroupe, je ne sais plus les chiffres, mais je crois une dizaine de producteurs en bio sur la Corrèze, et peut-être bientôt même en Haute-Vienne. Qui sont spécialisés sur les pommes de terre, potimarron, courges, qui vont étaler sur les fruits aussi bientôt. Donc on a mis en place des engagements d'achat, nous, en se disant, on vous prendra tant de pour sécuriser aussi, eux, leur écoulement et garantir derrière leurs revenus. Ça, c'est pour les coopératives. Et après, on travaille avec des producteurs. Donc sur le département, on a une dizaine de producteurs, alors des plus réguliers, des beaucoup plus sporadiques, qui vont être... Parce que ils ont des productions très spécifiques, très saisonnières, donc ça va être plus court dans l'année. Ça peut être la myrtille, ça peut être la framboise, ça peut être un légume en particulier. Et puis après, on en a quelques-uns avec qui ça va être plutôt un travail sur, un approvisionnement sur un push, parce qu'ils se retrouvent à avoir une bonne récolte. Et puis ils savent pas quoi en faire et ils nous proposent. Et nous, on essaye de dire, on va essayer d'en passer dans les paniers, sachant que dans l'organisation de nos paniers, nous. On a la semaine précédente, on a un petit compte rendu de tous nos fournisseurs, producteurs, qui nous disent on a telle quantité, tel produit, et puis on compose ces paniers par rapport à ce qu'eux nous amènent en fait. C'est-à-dire qu'on va pas leur imposer.
Et donc c'est quoi la différence avec une AMAP où toutes les semaines on va passer pour récupérer un panier aussi dans un lieu physique. Là je tends la perche plutôt sur tout ce qui est la composition des paniers et les différents types d'abonnements. C'est ça qui doit être aussi un gros casse-tête logistique. On n'en a pas encore parlé de la logistique, peut-être qu'on va y venir après. Ouais. Mais dans le e-commerce de manière générale, quel que soit le produit, c'est souvent ça qui est casse-tête. C'est quoi la proposition de valeur en plus, on va dire, de ma récolte bio comparée à des AMAP ?
Alors au niveau AMAP... Il y a différentes AMAP, il y a des AMAP qui vont faire des paniers très personnalisés, mais où le choix va être extrêmement restreint. Nous, nos paniers, comme je l'expliquais au début, c'est ce qui posait souvent problème, c'était la récurrence des produits. Sur des périodes hivernales ou sur des périodes d'été, le producteur étant seul, amenant seul la marchandise, la composition, quand il a de la tomate, il a de la tomate, quand il a de la pomme de terre, il a de la pomme de terre, et des radis, il a des radis. Donc il faut... Pour conserver son revenu et pour satisfaire les personnes qui ont pris un abonnement, il remplit les paniers. Mais des fois, il les remplit de manière très récurrente. Je prends les jardins de Cougam, c'est une des principales expériences que j'ai sur les paniers en monde agricole. C'était, on avait du céleri rave. Et le céleri rave était régulièrement toutes les semaines dans le panier. Donc nous, notre objectif, c'était d'amener des paniers qui soient composés de manière différente toutes les semaines. Donc vraiment un turnover de produits qui n'ait pas de récurrence et de saturation au niveau du consommateur. Et après, nous, ce qu'on amène en plus, c'est la modularité. C'est-à-dire que la modularité est sur le rythme de livraison, parce qu'on a effectivement plusieurs formules de consommation, soit l'achat sans engagement, où la personne va prendre son panier, choisir un point de retrait et le récupérer, soit après les formules 4 paniers, où la personne s'engage à prendre 4 paniers d'un coup, et le rythme de livraison, par défaut, sera un par semaine pendant 4 semaines, avec une modularité. C'est-à-dire que la personne, si une semaine elle n'est pas là ou elle part en vacances, elle stoppe les livraisons et on continue de livrer au retour de la personne. Sur l'aspect formule, on a mis un quelque chose en plus, ça va être la modification du panier. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ont un jardin, on est sur une région rurale, donc beaucoup de personnes ont un potager, ou ont des voisins qui ont un potager et qui partagent, ont des allergies, ont des l'aspect gustatif aussi, hein, le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Des produits qu'on n'aime vraiment pas, même en les cuisinant avec toutes les recettes du monde, ça ne passe pas. En prenant la formule, en fait, les gens peuvent modifier leur contenu en restant à l'intérieur, mais peuvent faire une modification.
Et moi, il y a un truc que j'avais testé une fois qui m'avait plu aussi, parce que je suis souvent en panique quand il y a des légumes un peu étranges. Je ne suis pas un gros professionnel des légumes, hein, je tiens à préciser. Mais il y a c'est tout bête, hein, mais des fiches recettes, en fait, même si je pense peut-être certaines herbes le font aussi, hein, je ne dis pas l'inverse, mais en tout cas, il y avait eu très vite, je me souviens, dans la logique de ma récolte bio, en fait, de faire des fiches recettes personnalisées selon le panier qu'on avait choisi. Et voilà, moi, ça m'a un peu sauvé la vie une fois, pour pouvoir tout cuisiner. Donc voilà, je voulais juste le souligner. Encore une fois, cette conférence n'est pas sponsorisée, bien sûr.
Non, mais c'est oui, on avait mis les recettes. Alors avec Covid, on a arrêté les recettes parce que c'était un peu compliqué. Mais on va les remettre en place. En fait, il y a... Bon, je crois que j'ai fait le tour de la fiche.
On a fait le tour de l'affiche, la régie, peut-être la suivante. Ouais. Ah oui,
non. Non, c'est vrai.
Non. Alors oui, allez-y. Alors attendez, on va juste vous amener un micro, comme ça on peut vous entendre pendant la rediff. Le micro, alors c'est devant Armel, juste par là. Non, juste c'est là, pardon. Merci beaucoup, Armel.
J'ai un micro.
J'appuie sur quelque chose. Non, c'est bon. Oui, j'ai une question par rapport à vos formules et le type de livraison, enfin le retrait. On l'a dit, on est dans une région rurale, mais on est aussi dans une région âgée.
Alors, excusez-moi, je vais vous demander de refaire la question, parce que malheureusement, on n'entendait pas dans le micro. Ah. Il faut le rapprocher. Voilà,
alors,
parfait,
je
merci.
Disais qu'on était dans une région rurale, on l'a dit, mais on est aussi dans une région âgée, avec des personnes isolées ou des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et le concept de la livraison à domicile?
Alors, comme l'a dit Selim, la logistique est un vrai problème. Du coup, on a quand même mutualisé sur des points de retrait qui sont essentiels. Enfin, ça va être principalement alimentaire. Ça va être les boulangeries, les boucheries, ça peut être des fleuristes. Après, on a des points de retrait qui vont être beaucoup plus atypiques. Ça peut être des salles de sport. Voilà, sport, légumes, bon, ça va ensemble. Fruits aussi, parce qu'on a du fruit sur le site. Des cavistes aussi, bon, à voir avec modération. Mais voilà, c'est après, pour la livraison à domicile, c'est beaucoup plus compliqué d'un point de vue logistique, temps, personne, véhicule. À l'heure actuelle, où les véhicules coûtent de plus en plus cher au niveau consommation, c'est extrêmement compliqué. On n'enlève pas forcément... la possibilité un jour de faire de la livraison à domicile, mais c'est pas, on préfère mettre en place un vrai maillage point de retrait parce qu'aussi derrière on a d'autres projets pour mettre en avant ces points de retrait là avec le site. Ça sera, mais c'est encore, j'en ai pas parlé sur la plaquette, mais voilà, c'est encore une étape supplémentaire parce qu'on aimerait aussi, ça reste, c'est des points de retrait qu'on a comme partenaires, c'est des points de retrait qu'on a démarchés, avec qui on s'est mis d'accord et je trouve que ce serait c'est intéressant de pouvoir aussi les mettre en avant parce que ils font des bons produits, ils sont pas très loin de chez nous, on n'y pense pas forcément. On a tous des habitudes de consommation qui nous poussent à 200 à l'heure et à aller au plus rapide et au plus vite. Et du coup, c'est vrai que ce qui peut, quitte à récupérer un panier de légumes, bah pourquoi pas, en même temps, tiens, on a réservé notre pain, on a réservé notre gâteau parce qu'on est ce week-end, on est invité, ou on prend notre pièce chez le boucher. Enfin voilà, ça, voilà, c'est vraiment dans la suite une des parties du développement du site.
Des Uber Eats pour.
C'est trop cher. C'est un coup pharaonique.
Ouais. Ouais. C'est dommage parce que bon voilà.
Mais j'entends, je note et je suis pas fermé après à la livraison à domicile, mais c'est vrai que c'est d'un point de vue logistique et gestion, c'est compliqué.
Mohamed, tu voulais ajouter quelque chose?
Alors, moi j'ai une question en fait pour Julien.
Si s'allumer.
Ouais. Donc Julien, en fait, les produits bio, le prix des produits bio il est plus élevé en fait. Les produits bio sont plus chers en fait que les produits classiques conventionnels. Moi, j'ai envie, dans cette salle, de demander au public qui d'entre vous achète des produits bio. Ah, il y a quasiment la moitié. Hein. Et donc, toi, comment tu peux commenter ce point-là?
On a encore du chemin à faire.
Ouais.
Non, après, plus sérieusement, je pense que Alors, le produit bio est plus cher, mais en fait, sur la société actuelle, pour moi, on est quand même, on a une vision très restreinte. En fait, il faudrait monter d'un étage. Le produit bio coûte cher, mais en fait, sur des produits conventionnels, on dit effectivement, on fait des économies, mais ça engendre combien de problématiques derrière, qu'en fait, on mutualise en payant derrière. Ben, les frais de santé, parce qu'effectivement, il y a des produits chimiques qui sont dangereux pour la santé, qui créent des cancers. Donc tout ça, c'est une vraie réflexion. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas globaliser. Sur l'instant, effectivement, on se dit on paye plus cher. Mais d'un point de vue global, sur le long terme, on est sur un monde qui est beaucoup plus viable, en fait.
Et moi, je me posais la question, avant de parler des projets à venir, t'as une idée du portrait robot de tes clients ? Est-ce qu'on tombe dans le cliché CSP+, qui habite en ville, comme tu as dit, qui n'a pas le temps, qui vit à 200 à l'heure et qui veut pas aller au marché et a quand même du budget, ce qui est aussi ça forcément un petit peu qui rentre en compte, ou alors, au contraire, c'est un clientèle assez hétérogène ?
Alors, c'est la gente féminine, ça c'est à 80% par contre. On est sur ça. Après, oui, on est quand même sur un CSP+. Maintenant, je fais aussi l'activité marché. Et on a quand même des consommateurs qui sont assez éclectiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes d'un certain âge, comme des jeunes couples, des jeunes parents, des personnes qui sont mariées avec des enfants, ou qui ont une certaine... Ça peut être soit par envie, soit par philosophie, soit par moyen. Enfin, il y a plein de possibilités. Après, ce qui est important de séparer, c'est les personnes qui vont au marché de celles qui consomment par le site internet. C'est deux consommateurs différents. Pour avoir fait l'essai, sur le marché, on a promulgué ma récolte bio, on l'a mis en avant, on a fait des bons, on a mis en place. Et en fait, les gens ont essayé, hein, normal, on teste et tout. Et non, ce qui les intéressait, c'était venir au marché. On est vraiment sur deux modes de consommation différents et on répond à deux types de clientèle.
Faire la démarche d'aller dans un lieu physique, peut-être, parce que je pense aussi aux personnes âgées où ce n'est pas toujours forcément évident l'outil Internet pour commander. Et aussi peut-être un petit côté de lien social, non ?
Alors, certainement, parce que le marché, après, c'est encore quelque chose de particulier. Hein. Moi, j'appelle ça un monde à part. On a la grande surface et puis le marché. Et le marché, c'est vrai qu'il y a une ambiance, il y a des envies, il y a des discussions, il y a... donc c'est encore quelque chose.
Et pour revenir sur le côté livraison, mais plus, on va dire, sur le fait aussi que, mine de rien, ce sont des produits fragiles qui sont transportés aussi. Comment tu gères ça ? Je prends un exemple malheureusement, quelqu'un reçoit un panier où il y a des fruits ou des légumes qui sont pourris parce qu'ils ont été stockés, etc. Enfin, quelle que soit la raison. Quelle est la politique, déjà, par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a, comme quand on achète des fringues sur Internet, on les renvoie gratuitement et on reçoit un panier ? Est-ce que c'est déjà arrivé, d'ailleurs, ou pas ? J'imagine que c'est des choses que vous avez anticipées.
On a hein, bien sûr, des insatisfaits, des personnes qui reçoivent des produits cassés, des produits mâchés, des produits abîmés, parce qu'on a quand même une étape de préparation. C'est-à-dire que dans notre process, on reçoit la marchandise, on la reconditionne, donc on la préfiltre. Donc ce qu'on n'accepterait pas d'avoir, nous, on le met du coup pas. Maintenant, on n'est pas infaillible, on reste que des hommes et des femmes. Et du coup, il arrive que des fois, il y ait des choses qui passent. Et on est tout à fait ouvert à la critique, on prend note, on arrange. Après, il y a plein de possibilités, soit on livre un panier, soit on fait un bon, soit on se retrouve parce que la personne habite pas loin, elle vient au marché, à ce moment-là, on voit comment on peut procéder. Mais on reste quand même humain et il arrive que des fois, il y ait des casses, que ce soit même on fait un peu d'œuf, on fait de l'épicerie. Alors, l'épicerie, il n'y a pas de casse, mais sur les œufs, il peut y arriver qu'il y ait de la casse. Donc, on est tout à fait ouvert et on répare immédiatement.
Une question un peu pour vous deux, finalement. C'est quoi votre sentiment, finalement, sur l'évolution du marché, que ce soit de la vente en physique ou en e-commerce, peu importe, mais avec ces impératifs environnementaux qui arrivent et qui vont arriver d'autant plus. Donc, on a parlé forcément du changement climatique, la raréfaction de certaines ressources, là en l'occurrence dans les fruits et légumes, on va peut-être penser plutôt à des choses lointaines, les fruits exotiques, etc., qui vont peut-être être touchés en premier, mais peut-être que aussi on a des légumes du quotidien qui vont se raréfier aussi avec les changements climatiques. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez, vous, en tant que citoyen, ou aussi en tant que professionnel qui est dans ces filières-là ? C'est plus votre sentiment, c'est pas forcément une analyse précise, mais qu'est-ce que vous en pensez, tout ça, de comment ça peut évoluer, en fait ? Un peu métaphysique comme question, j'en conviens.
Non, intéressant.
intéressante. Avant, juste, j'ai envie de dire en fait ce que Julien est en train de faire, il est très intéressant. Le bio, il fonctionne très bien à l'échelle locale et le circuit court. Moi, le sujet que j'ai abordé concernant le bio, ça concerne en fait l'agriculture et les grandes surfaces. Donc voilà, en fait, oui. Bah, pour répondre à ta question concernant il faut sensibiliser les gens. Il faut créer une communauté, sensibiliser les gens et de les avertir en fait en tout ce qui concerne tout ce qui concerne en fait le changement climatique.
Ouais. Après, si je peux me permettre, ça c'est un peu déjà fait. On commence déjà à être un peu quand même éduqué à ça. Mais bon, après, il y a sûrement des efforts à faire aussi. Je vois que dans le public, ça s'agace un peu quand je dis ça. Mais après, c'est peut-être aussi, il y a un biais cognitif aussi, parce que je pense que si on est là aussi, c'est qu'on est un minimum sensibilisé et intéressé sur ces questions-là notamment. Mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est purement subjectif, que cet effort-là, il est fait de conscience, on va dire, en tant que citoyen. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à pousser un peu plus haut par rapport à la responsabilité des entreprises ou des institutions par rapport à ça? Alors, c'est un peu impensif ce que je viens de dire, mais...
Bah, si, en fait, sur le plan citoyen, oui, d'accord, on est d'accord que ça a été fait, mais il y a du long chemin encore. Concernant le monde des entreprises, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les démarches RSE, responsabilité société environnementale. Toutes les entreprises sont concernées par les contextes, contraintes environnementales et contraintes réglementaires et sont aussi amenées à mettre en place des actions qui encouragent les gens et qui sensibilisent en fait le public à prendre responsabilité en fait.
Tu en penses quoi, toi, Julien, justement par rapport à cette question-là, en tant que citoyen, en tant que pro d'ailleurs aussi?
Alors, en tant que citoyen, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire.
Okay, je suis trop optimiste alors, peut-être.
Non, il y a des prises de conscience. Après, la prise de conscience, elle est bien. Maintenant, il faut qu'elle dure et qu'elle rentre dans des actes, ou au moins des choses concrètes. Alors, je pense que cette année, la sécheresse, ça va avoir marqué beaucoup de personnes.
Espérant que ça ne soit pas oublié aussi vite que le Covid. Hein.
Ça dépend l'année prochaine. S'il pleut tout l'été, je pense qu'on n'y pensera plus.
ça a affecté nos essais, en fait.
Oui, c'est vrai. Que pour le coup...
Donc, nous, on est concernés.
Oui, tout à fait. Ouais.
Oui, puis moi, je vais l'être aussi parce qu'en fait, je commence déjà à voir au niveau de certains producteurs qui me disent qu'il va y avoir des pénuries très tôt de certains produits, légumes d'hiver, etc., qui ont eu énormément de mal à pousser, même en arrosant, parce qu'il y a une difficulté à pouvoir maintenir un taux d'hydrométrie au niveau du sol, quoi. Donc, c'est une problématique qu'il faut prendre vraiment, vraiment.
Et vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste, voilà. Peut-être si je peux préciser ma question.
Jules Clom, il a une capacité d'adaptation phénoménale, donc on va y arriver.
Mohamed, optimiste, pessimiste, entre les deux?
Opti-pessimiste.
Opti-pessimiste. Je crois qu'on dit pragmatique, il me semble, je crois que c'est ça. Alors, une petite question, juste là, ouais.
Ouais, du coup, je voulais rebondir sur les connaissances sur le sujet. Pour rappeler un petit peu rapidement, en fait, on a 84% des Français qui se disent préoccupés par l'environnement, sondage de l'ADEME depuis 2005, qui est fait chaque année. Et pour autant, quand on leur demande d'identifier les causes précises, c'est seulement 18% des Français qui connaissent vraiment les enjeux environnementaux. Et par exemple, en tout début, en introduction, on a entendu parler de nourrir la planète, etc. Je voulais juste rappeler qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ce sujet, hein, qui sont les greniers de l'abondance et qui ont mis en œuvre un outil qui s'appelle Cratère, et qui ont montré qu'effectivement, on ne va pas pouvoir nourrir la planète, ou alors tout du moins difficilement et en usant les écosystèmes, si on continue de consommer 80 kg de viande par personne, ou plus de 2/3 de la surface agricole française et pour l'élevage, etc. Maintenant, si on s'intéresse à des scénarios de transition, typiquement ceux de l'ADEME, ceux du Shift Project, ceux de Négawatt, etc., ou des greniers de l'abondance, on voit qu'on a des possibilités de faire des transitions alimentaires. Et pour donner un exemple sur notre territoire, en Haute-Vienne, on a à peu près 38 000 hectares qui sont dédiés aux animaux. Et si on était capable, ne serait-ce que de descendre de 50% de notre consommation de produits animaux, on n'aurait besoin que de 13 000 hectares. Donc il faut aussi relativiser ce qu'on met dans notre assiette par rapport aux enjeux de demain. Et quand on dit est-ce que oui ou non il est possible de nourrir les personnes, est-ce que oui ou non on va avoir des dégradations sur notre environnement, en fait c'est tout à fait possible, on peut faire du bio partout. Par contre, on aura des problèmes sur la biodiversité. Je veux dire, la démarche, c'est qu'avec de l'énergie, on sera capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. En fait, c'est pas un sujet, mais on aura d'autres espaces qu'on va détruire, abîmer, des ressources métalliques pour pouvoir robotiser notre agriculture, une destruction du lien social parce qu'on aura robotisé énormément les choses. Donc c'est assez intéressant aussi de savoir ce qu'on veut vraiment en termes de société et ce sur quoi on s'inscrit. Est-ce qu'on veut tout dématérialiser? Est-ce qu'on veut casser le lien social? Est-ce qu'on veut des machines partout? Ou est-ce qu'on veut réintensifier la main-d'œuvre, revoir la transformation en local, etc. Et quand on s'intéresse aux scénarios de transition, globalement, on se rend compte qu'on assiste à une démondialisation massive parce qu'on va avoir une déflation pétrolière. Le pétrole, c'est l'énergie de la mondialisation. Et de manière générale, ça veut dire moins d'entrants chimiques, ça veut dire moins de mécanisation, moins de métaux extraits. Donc ça veut dire réintensifier la main-d'œuvre dans les champs. Est-ce que c'est compatible avec des grandes cultures aujourd'hui? Est-ce qu'il ne faut pas revoir notre modèle agricole en profondeur et pas être juste des rustines, un truc qui fuit de tous les côtés, quoi? C'est un peu ça, en fait, aussi, la réflexion qui pourrait être un peu plus, je veux dire, globale.
Un peu plus globale, ouais. Après, c'est vrai que j'imagine qu'il y a aussi tous ces enjeux, j'allais utiliser le terme évangélisation, mais c'est peut-être un peu trop exagéré de dire ça, mais en tout cas, de plus globalement, changer de prisme de vie. Et ça, je ne sais pas si après des années, des décennies d'habitude de confort, si je peux le dire ainsi, le chemin va être long. Donc en effet, je comprends mieux maintenant la remarque de tout à l'heure et l'agacement quand j'ai dit que les gens étaient plutôt sensibilisés. En effet, il y a peut-être encore un peu de taf. Mohamed, pardon.
Oui, il faut dire aussi que le Covid, le confinement, nous a appris beaucoup de choses concernant la sobriété.
Ça proteste. Ouais, attention.
Non, elle nous a appris beaucoup de choses, en fait, de prise de responsabilité, de restreindre nos déplacements.
Le micro aussi, s'il te plaît, parce que je ne sais plus si on entendait bien, non?
Oui.
Ouais. Non, pardon, c'est bon. C'est moi, désolé.
Non, pas de souci. Non, j'étais en train de dire que le confinement, le Covid nous a appris beaucoup de choses sur la prise de responsabilité dans cette période-là de crise. Et l'exemple, c'est le télétravail, diminution de transport, placement de transport, c'est la source numéro un d'émission de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone. Et donc,
Très rapidement, parce que je vois qu'il nous reste que 10 minutes et j'ai un petit quiz pour que vous puissiez briller en société avec des questions très générales sur l'agriculture, vous verrez. Les projets à venir donc, de ma récolte bio, je vois développement donc, d'un nouveau site, ça c'est un peu le nerf de la guerre quand on fait du e-commerce, je présume.
Oui.
Ouais. Donc,
Il arrive.
On ne donne pas de date pour ne pas porter la poisse ou on peut donner une fourchette.
On est sur l'alpha test. Là.
D'accord. Donc,
on l'a lancé. Ouais, j'espère.
En termes de fourchette.
Fin octobre, début novembre.
Ah oui, ça va arriver assez vite.
Ouais,
d'accord.
Ouais, okay. Ça fait un an. Okay. Non, c'est bon.
Un an de développement déjà. Et puis ensuite, donc, développement du réseau de distribution. Pour l'instant, il était plutôt au viennois corrézien. Et là, l'idée, c'est d'étendre un peu plus loin.
Tout à fait. D'aller sur Bordeaux. Alors après, le process, c'est d'avoir une unité là-bas. Pour faire en fait ce qu'on fait ici, c'est dupliquer juste en travaillant avec du producteur local et du circuit direct en fait. Parce qu'il y a
franchisé ou quand même à 100% propriétaire.
100% dans un premier temps. Après, c'est pareil quand je parlais de producteur direct. Bon, je prends l'exemple des agrumes, mais ça vient d'un peu plus loin. On a un partenariat. On a les clémentines corse. En fait, en Limousin, il n'y a pas d'agrumes. C'est vrai qu'en hiver, c'est un peu compliqué d'avoir des agrumes par chez nous. Donc on est en direct avec une coopérative en Corse qui fait de la clémentine. Ça, c'est la première chose. Sachant qu'en Corse, c'est des petites structures, donc elles sont souvent en coopérative. Il y a très peu de producteurs indépendants. Et après, pour ce qui est orange, en fait, on est en circuit direct avec une productrice de Sicile, en fait, qui nous fait les oranges italiennes et avec qui on travaille depuis maintenant 3 ans. Voilà, on n'a pas d'intermédiaire. Tout ce que l'on touche, en fait, ben on le reverse à 80%, enfin 70% à la productrice. Donc ça a quand même une importance. Et il n'y a personne entre elle et nous pour le développement. Voilà.
C'est quoi l'URL pour te trouver ?
Maricoltebio.fr.
Voilà, c'était le petit instant pro. Merci beaucoup, Julien Bertrand. Merci. On peut applaudir aussi, s'il vous plaît.
Merci.